Apocalypse chapitre 12. La femme, le dragon, l'enfant. Ça va? Après la bête, laquelle? Il y en a deux. Celle qui vient de la mer, celle qui vient de la terre. Hein? Et puis il y a le dragon, le faux prophète. On va avoir du fun ce soir. Hein? Alors, Apocalypse chapitre 12 et Apocalypse chapitre 13, c'est le cœur de l'Apocalypse. Hein? C'est vraiment la clé. On est vraiment au centre de l'Apocalypse. On a eu toutes les trompettes. On a chapitre 12, chapitre 13, et après on va embarquer dans les coupes. Alors, ça commence comment? Bon, on va le lire ensemble. Apocalypse chapitre 12, verset 1er. Et un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. C'est qui cette femme? Certains vont dire, ben, c'est la Vierge Marie. D'où, notez bien que cette femme a les 12 étoiles sur sa tête. Donc, la reine du ciel, ça vient de là. Ben oui, ça vient de là. En identifiant ici cette femme à Marie et en plus avec une couronne d'étoiles, eh bien, ça fait d'elle une reine du ciel. Alors, y en a peu hein, qui disent que c'est la Vierge Marie. Même des catholiques, des théologiens catholiques sont pas vraiment d'accord avec ça. C'est une interprétation qui date du 5e siècle. Et bon, c'est beaucoup discuté parce que le problème, c'est qu'après, elle a d'autres enfants. Alors, eux-mêmes, hein, ceux qui ont une position un peu... en considérant que ce serait la Vierge Marie, ben, ça leur pose des problèmes. Et alors, pourquoi c'est pas la Vierge Marie? Parce qu'on va voir qu'après, il y a un combat entre le dragon qui poursuit cette femme. Alors, c'est pas juste une femme ici, mais c'est bien plus. Alors, on continue, puis on va essayer de démystifier cette femme. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant sept têtes et 10 cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. C'est qui le dragon? Là, c'est assez facile parce que c'est le dragon, c'est le Satan ancien. C'est marqué clairement, noir sur blanc, dans le même chapitre. On a la clé, on a la solution. Donc, le dragon ici, c'est Satan. Vous vous souvenez de ce que veut dire Satan? Satan, ça vient évidemment de l'hébreu. Et le Satan, c'est l'adversaire. L'adversaire. Donc quand on parle de Satan, maintenant c'est devenu un nom propre, hein, on dit c'est Satan, mais le Satan, c'est l'adversaire. Celui qui s'oppose, celui qui est adversaire évidemment de Dieu ici en l'occurrence. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. C'est qui cet enfant? On va y arriver. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Voilà une femme qui enfante un fils. C'est qui cet enfant-là? Si on va dans Psaume chapitre 2 verset 7, ça devrait vous rappeler quelque chose, ça. Je vais aller là, ça va plus vite. Psaume chapitre 2 verset 7. Avez trouvé? Il est dit, je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le potier. Et c'est exactement le même vocabulaire qui est employé ici, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et ça fait. On verra dans la suite du chapitre que ça vient confirmer que le fils en question ici, c'est le Christ, c'est Jésus. Et que donc cette femme enfante le Messie. Et ce Messie qui est ce Christ, qui a donc qui, qui va donc faire paître les nations et qui est ce Messie. Donc, dont les prophéties de l'Ancien Testament avaient annoncé. Maintenant, cette femme qui donne naissance à ce fils, c'est qui cette femme alors? Alors, dans le monde naturel, ça pourrait être Marie, mais ici, on verra que on a vu que c'est pas le cas parce que ça marche plus après avec la suite du chapitre. On aura l'occasion de le lire ensemble. Cette femme, pour faire les choses plus, disons, c'est le peuple de pas seulement Israël, mais le peuple de Dieu. Dans le sens où les enfants de cette femme, parce qu'il est question de ses enfants ici, vont être en fait les chrétiens fidèles et que le dragon va poursuivre. Et donc, cette femme, c'est le peuple de Dieu. Allez, pour vous en convaincre, Romains chapitre 9, verset 5, je vais laisser l'apôtre Paul parler à ma place. Il dit ça mieux que moi. Romains chapitre 9, verset 5. Je suis sûr que c'est le verset auquel vous aviez pensé tout de suite. Romains chapitre 9, verset 5. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, et les patriarches, de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Et pour l'apôtre Paul, c'est clair que le Christ est issu, selon la chair, des patriarches. Et donc, il provient des patriarches. Et dans ce sens-là, les patriarches, le peuple de Dieu dans sa globalité, enfante, eh bien, Jésus. Il est né quelque part, il est issu, eh bien, non seulement de la postérité de David, mais donc de l'héritage et des promesses du peuple de Dieu d'une manière générale. Dans le peuple de Dieu, évidemment, on comprend Israël, l'Israël historique, mais pas seulement, puisque ça va aussi venir, eh bien, faire référence aux chrétiens fidèles. On va lire la suite, ça va nous aider à y voir un peu plus clair. On était donc au verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Vous dites, ça me dit quelque chose, ça, 1260 jours. Ça fait 42 mois avec des mois de 30 jours. Ça fait donc 3 ans et demi. Ces fameux 3 ans et demi hein, dont il était question juste avant au chapitre 11. Et d'ailleurs, ça vient comme faire un écho avec le chapitre 11. Vous vous souvenez qu'il y avait au chapitre 11, il y avait les deux témoins qui, pendant justement 3 ans et demi, eh bien, ont rendu témoignage. Et en connectant les deux, le chapitre 11 et le chapitre 12, si on veut garder une certaine cohérence, ça va venir plutôt plaider en faveur que les deux témoins de l'Apocalypse seraient synonymes avec cette femme. Et donc, les deux témoins de l'Apocalypse, c'est le peuple de Dieu qui rend témoignage, à savoir l'Église, dans les temps modernes, qui rend témoignage de la même manière ici. C'est cette femme qui a enfanté, mais qui maintenant est comme, qui s'enfuit dans le désert. Le désert, c'est un lieu de persécution. C'est un lieu, parce que c'est 42 semaines, hein, parce que 1260 jours, c'est aussi 42 semaines, c'est 3 ans et demi. Tout ça, hein, et on verra qu'il y a encore une autre expression dans le chapitre 12 qui veut dire la même chose. Eh bien, cette période-là, d'après le livre de Daniel, correspond vraiment à la persécution d'Israël. Et donc, c'est ce qui se passe ici, cette femme qui fuit et qui est poursuivie par le dragon. Verset 7, il y eut guerre dans le ciel, et Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Il y a une guerre dans le ciel. Et cette guerre dans le ciel, eh bien, il est question d'un certain Michel. Vous le connaissez? Vous en avez entendu parler? Ça vous dit quelque chose? Non? Daniel, chapitre 12, verset 1. C'est le même. Alors évidemment, nous, on le lit en grec ici, et dans Daniel, le nom est en hébreu, donc c'est pour ça qu'il peut y avoir quelques variantes quand on traduit ça, eh bien, en français, en ce temps-là se lèvera Michael. Donc, dépendamment de la traduction de la Bible que vous avez, ça peut être traduit différemment. Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis que les nations existent. Ça ressemble vraiment à des termes apocalyptiques. Et donc, on voit que Michel ici, Michael, grand défenseur, grand chef, défenseur des enfants du peuple, eh bien, est celui qui vient combattre. Et le combat qui a lieu dans le ciel, alors que Michel et ses anges combattent contre les dragons, fait référence évidemment à cette femme qui s'est enfuie dans le désert. C'est relié. C'est pas deux histoires qui ont rien à voir. Et on sent que ce combat a un combat pour protéger ce qui se passe en bas. Eh bien, de la même manière, l'apôtre Paul nous le dit hein, dans Éphésiens chapitre 6, qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais qu'il y a un combat qui est dans les lieux. Hein, c'est ailleurs, ça se passe ailleurs. Et ce n'est pas terrestre ici. Et là, de la même manière, il y a un combat qui se passe dans le ciel. Et Michel ici en est le chef. D'ailleurs, Jude même parle de lui comme étant un archange. Si on va dans Jude, chapitre, Jude 9, il n'y a pas de chapitre, Jude 9, il est dit: Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et qu'il disputait le corps de Moïse. On voit qu'ici, le Michel en question, cet archange, eh bien, disputait déjà avec le diable à l'époque de l'assomption de Moïse. Donc, ce Michel-là, donc il y a un combat dans le ciel. C'est ce que nous dit Apocalypse chapitre 12. Le dragon, il combat le dragon, et le dragon et ses anges le combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Alors là, il faut bien suivre le sens, il faut bien suivre la conjugaison ici, hein. C'est qui n'est pas les plus forts? C'est Michel ou c'est le dragon? Alors, je vous relis la phrase. On y va. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. C'est le dragon, mais il fait référence à l'élément le plus proche. Et l'élément le plus proche, c'est qui? Le dragon. Ah, ça change tout, hein? Qui est-ce qui gagne? C'est le dragon ou c'est Michel et ses anges? Si vous voulez que ce soit le dragon, non, c'est pas le dragon qui gagne. Le dragon perd. C'est Michel et ses anges qui gagnent. Ils ne furent pas trouvés les plus forts, hein? Attendez, attendez. Mais ils ne furent pas les plus forts. Le dragon n'est pas le plus fort, donc c'est le plus faible. Si c'est pas le plus fort, donc c'est lui qui perd. Qui est-ce qui gagne? C'est le plus fort ou le plus faible? Le plus fort, c'est Michel, et c'est Michel et ses anges qui gagnent sur le dragon. Non? Moi, je préfère que ça gagne. Je préfère être du côté du gagnant que du côté du dragon qui perd, là, hein? Et il est dit: Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Alors là, si vous avez un problème d'identité, vous savez vraiment c'est qui ce dragon. Hein? On le dit avec tous les mots qu'on connaît pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Évidemment, là, on dit, bon, ça se passe quand cette histoire-là? Et évidemment, dépendamment de comment on lit l'Apocalypse, si on lit les choses en disant, ben écoutez, on a déjà eu la première trompette, enfin l'ouverture des sceaux, hein, on a ouvert 6 sceaux, quand on ouvre le septième sceau, il y a une première trompette, on a eu 6 trompettes, on arrive à la septième trompette, et maintenant on a cette histoire-là. Si cette histoire est après la septième trompette, ça devient compliqué. Bon, mais y en a qui font ce genre de lecture ici et qui essayent de mettre les choses dans l'ordre. Mais si cette femme qui accouche est... Notez bien ici que dans cet accouchement, certains voient plus la résurrection que la naissance de Jésus. Hein. C'est vraiment la victoire ici, c'est la vie qui naît. En tout cas, c'est plus la résurrection et la victoire de Jésus que son incarnation sur la terre. Parce qu'ici, on est dans une représentation plus céleste et spirituelle. En tout cas, quand Michel combat contre le dragon et que le dragon est précipité sur la terre, ben, ça fait quand même écho. Moi, ça me rappelle un petit peu ce que Jésus disait dans Luc chapitre 10, verset 18. Ça vous dit quelque chose, ça, dans l'Évangile? Luc chapitre 10, verset 18, où Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Tomber du ciel comme un éclair. Et on a dans l'Apocalypse chapitre 12 verset 9, et il fut précipité le grand dragon, il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui. Et Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel. Pourtant, quand il dit ça, c'est au moment où, eh bien, ses disciples reviennent, les 70 qui étaient partis, ils reviennent et qui racontent, voilà tout ce qui s'est passé, comment on a chassé des démons en ton nom. Et Jésus dit, je voyais Satan. C'est-à-dire que dans chaque victoire, que dans chaque délivrance, quand les démons étaient chassés, eh bien, ça contribue ou ça fait partie de cette chute du diable. Ça rappelle ou ça fait référence à ce diable qui est précipité. Alors, quand ça s'est passé exactement, là, il faut être prudent par rapport à la gestion du temps, parce que vraisemblablement, dans le ciel, le temps, ça ne se passe pas pareil que sur la terre. Mais néanmoins, ça fait référence au même événement, à savoir la défaite. Le dragon n'est pas le plus fort. Et c'est la bonne nouvelle du chapitre 12. Comprenez que l'Apocalypse est un livre de bonnes nouvelles, où qui est écrit à des chrétiens pour des chrétiens qui sont persécutés, hein, les premiers lecteurs de l'Apocalypse, au moment où Jean écrit, Jean lui-même est exilé dans l'île de Patmos, il subit un petit peu les foudres, eh bien il subit la persécution des chrétiens, mais quand il écrit l'Apocalypse, c'est pas pour décourager les chrétiens, c'est pour les encourager. Lorsqu'il écrit l'Apocalypse, c'est pas pour les déprimer, mais c'est au contraire pour leur donner de la force et qu'ils se réjouissent. Et là, qu'est-ce qu'on apprend dans ce passage-là? Eh bien, on apprend non seulement qu'il y a un temps qui est fixé, qui est limité, hein, on a quand même un 1260 jours, c'est-à-dire que c'est pas pour tout le temps, pour l'éternité, pour l'infini, il y a un temps qui est fixé et le diable a un temps limité. Et ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Quand un chrétien qui est persécuté dit que les temps sont durs, eh bien, il apprend ici, au travers de cette déclaration, de cette prophétie, de cette vision du chapitre 12 de l'Apocalypse, que le diable a un temps qui est limité. Il arrivera un moment où c'est fini. Et non seulement ça, mais que il n'est pas le seul à combattre quelque part et à être l'objet, eh bien, un petit peu du combat entre le dragon qui veut anéantir, eh bien, cette femme, mais que dans le ciel aussi, il y a un autre combat. Et que Michel et ses anges, que l'archange Michel, si je prends Jude, eh bien, dans le ciel, combat aussi. Et en ce qui nous concerne, ça doit venir nous réconforter de dire qu'on n'est pas les seuls à combattre, qu'on n'est pas seul à combattre, eh bien, contre notre adversaire, mais qu'il y a un combat aussi dans les lieux célestes. Et que l'armée du ciel combat. Et que quelque part, on fait partie de ce combat-là, on est associé à ce combat-là, et on est aussi bénéficiaire de la victoire qui a lieu dans les lieux célestes. Parce que il n'est pas trouvé plus fort. Et Michel et ses anges ont été plus forts que le dragon et son armée. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui doit venir nous encourager, nous faire du bien. Il tombe, il chute, et c'en est fini pour lui. Je reviens à Apocalypse chapitre 12, verset 10, et j'entendis dans le ciel la voix forte qui disait, Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, de l'autorité de son Christ. Donc, on voit ici que ça vient confirmer que l'enfant qui est né est le Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et on a quasiment dans ce même chapitre tous les noms du diable, hein, puisqu'il est question du dragon, du serpent, du diable, de Satan. Et là encore, on a un autre de ces noms, l'accusateur des frères. Il est celui qui accusait, il est celui qui voulait notre mal. Un accusateur, c'est quelqu'un qui veut votre ruine, qui veut votre perte, qui veut votre condamnation. Eh bien, celui qui voulait notre mal, notre accusation, notre ruine et notre perte, eh bien, a été précipité sur la terre et il a été vaincu. Verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors on comprend ici que il y a une victoire qui a été accomplie et que cette victoire, eh bien, dépend et est issue de ce qu'a accompli l'agneau. C'est pas la première fois qu'on parle de l'agneau ici. Puisqu'il était question de l'agneau qui a été immolé, on a vu, Jean a vu dans cette vision céleste, hein, dans les chapitres précédents, eh bien comment les êtres célestes pouvaient se prosterner devant l'agneau, il est digne, l'agneau qui seul pouvait ouvrir ce livre scellé. Eh bien, ici, on voit que la victoire de l'agneau a une conséquence sur l'adversaire. Et donne une victoire, eh bien, à ceux qui ont gardé sa parole, la parole de leur témoignage. Et pourquoi il est dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort? Eh bien, pour dire ici que on est dans un contexte de persécution. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Les premiers chrétiens qui lisent ça sont dans un contexte de persécution. Ils sont persécutés, leur vie est en danger, certains sont condamnés à mort, que ce soit dans les arènes des Romains, mangés par des lions, toutes sortes de supplices, de condamnations à mort. Eh bien, c'est une parole réconfortante en disant, même s'ils meurent persécutés, il y a une victoire qui les attend. Parce qu'il y a une victoire avec le sang de l'agneau, une victoire sur ce dragon, ce serpent ancien, et qui est tout à l'honneur et à la gloire de Dieu. Et c'est ce qui se passe dans ces versets 10, 11 et 12. C'est pourquoi réjouissez-vous. Et c'est un peu paradoxal de dire à ceux qui sont persécutés, réjouissez-vous. Mais ben, réjouissez-vous, oui, parce que votre adversaire, il est condamné. Parce que votre adversaire, le Satan, votre adversaire, il perd. Il a déjà été condamné et le sang de l'agneau est suffisant pour garantir cette victoire. Alors c'est ce qui est dit au verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et ça, c'est réconfortant. De savoir que le diable sait qu'il a peu de temps. Il sait qu'à un moment donné, ce sera fini. Nous, notre espérance, elle est dans l'éternité. Mais lui, il sait qu'il a peu de temps. Et on comprend pourquoi il s'excite davantage. Parce que comme il sait qu'il a peu de temps, ben, il ne veut pas perdre son temps. Mais à plus forte raison, nous, les chrétiens, dit l'apôtre Paul, on doit racheter le temps aussi. Et considérer que, eh bien, il faut pas perdre notre temps non plus. Alors, on arrive au verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et deux ailes du grand aigle, vous vous souvenez qu'à un moment donné, il y avait un aigle qui volait, hein, au moment de cette, avant la sixième trompette, hein, qui, bon, bref, enfin, c'est lui, là. Les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert. Bref, elle est assistée surnaturellement. On voit qu'il y a un soutien qui est là pour l'aider à s'enfuir, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Ça vous dit quelque chose, ça? Ça rappelle tout à fait les paroles de Daniel. Un temps, des temps, et la moitié d'un temps. 1 plus 2 plus la moitié d'un. Ça fait combien? 3,5. Vous me suivez? C'est logique, hein? Finalement, c'est pas si compliqué. Alors, il est dit ensuite, loin de la face du serpent. Et ça veut dire quoi cette affaire-là? Ça veut dire que on voit que le dragon fait toutes sortes de tentatives pour anéantir cette femme, comprenez le peuple de Dieu, mais qui a une protection surnaturelle. Alors que de sa gueule, il lance un fleuve pour anéantir la femme, la terre s'ouvre et anéantit ce fleuve. Et quelque part, c'est réconfortant, surtout à l'époque de Jean, ou surtout quand on est dans une église persécutée, de se dire, on a un adversaire qui nous veut du mal, mais on a un Dieu qui nous protège. Et on connaît l'expression en français en disant, ça nous donne des ailes. Ben ici, on lui donne des ailes, littéralement, à cette femme-là, pour être capable de s'enfuir. Et non seulement, on lui donne des ailes miraculeuses, mais en plus, quand le dragon, eh bien, lance une attaque contre elle, il y a une protection qui est là afin que l'attaque du dragon ne l'atteigne pas et ne la touche pas. Verset 17, le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Donc, c'est ce qui poserait problème un petit peu pour ceux qui penseraient que ce soit Marie, à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Donc la postérité de la femme, c'est ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et c'est là où on voit qu'il y a une nuance, où si la femme peut être le peuple de Dieu, parce que c'est clair que si c'est cette femme qui enfante Jésus, ben, il ne s'agit pas de chrétien ici, puisque c'est avant Jésus, mais que ici, eh bien, dans cette postérité-là de la femme, il est question de ceux qui retiennent le témoignage de Jésus. Donc c'est clair ici qu'il ne s'agit pas d'Israël dans le sens Israël historique, mais il s'agit, eh bien, des chrétiens, de ceux qui confessent le nom de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Et ça fait une transition. Le dragon se tient sur le sable de la mer. On dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il attend quelque chose. Oui, justement, il attend quelque chose. Parce que de la mer, il y a une bête qui arrive. Et c'est le chapitre 13. Alors, dans le chapitre 13, on a deux bêtes. Vous connaissez les deux bêtes du chapitre 13? Oui? Non? Vous l'avez lu? La bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre. Alors, il va falloir qu'on arrive à comprendre c'est quoi ces deux bêtes. Premièrement, je vis verset 13, chapitre 13, verset 1. Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Ça ressemble un peu au dragon, hein. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds avaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance. On voit ici que il y a comme une similitude, ou plutôt une parodie, ou une copie, un petit peu des êtres vivants qui y avait autour du trône de Dieu. Vous vous souvenez qu'il y avait des êtres vivants autour du trône de Dieu qui avaient différentes faces. Et même des fois, si on revenait avec Ézéchiel, la même personne pouvait avoir quatre faces. Et ici, on a aussi cette quadritude avec ces quatre aspects. Et on voit qu'il y a comme une imitation. Et ce n'est pas la première fois, et on verra que ça arrive, qu'il y a même une trinité quelque part dans l'Apocalypse concernant la bête, le dragon, le faux prophète. Mais là, de la même manière, on voit qu'il y a une certaine imitation de ce qui est céleste, mais évidemment. Ce n'est pas le cas ici, ce n'est pas céleste du tout, enfin, ce n'est pas divin du tout. Le dragon donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc, c'est une bête qui reçoit l'autorité de la part du dragon, c'est-à-dire du diable, du serpent ancien, de Satan. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. mais sa blessure mortelle fut guérie. Rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête. Alors, c'est là que ça se complique ou ça devient intéressant, je ne sais pas. La terre entière suivit la bête et ils adorèrent le dragon. Donc, la terre entière adore le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Ça ressemble un peu aux paroles qui avaient été dites devant le trône de Dieu en disant, qui est semblable à l'agneau, hein, et qui est comparable à l'agneau, et bien là, c'est le même genre de vocabulaire, mais par rapport à la bête. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois, ça fait combien d'années, ça? 3 ans et demi. On est toujours dans nos affaires. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu. Et là, le fait que la bête fasse la guerre aux saints et de les vaincre, ben, quelque part, ça vient montrer à ceux qui sont persécutés, eh bien qu'il faut pas être surpris d'éprouver quelques défaites, et c'est le cas ici. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Est-ce qu'il y en a qui ont des oreilles ici? Est-ce qu'on entend? On dit oui, j'entends, mais est-ce que ça veut dire qu'on comprend? C'est une autre affaire. Alors, c'est quoi ces deux bêtes? On a cette première bête qui monte de la terre, de la mer, pardon. Eh bien, c'est pas la première fois qu'on la voit dans l'Apocalypse. Non, vous avez dit, j'ai déjà vu quelque part cette bête-là. Non? On est bien au chapitre 13 là. Donc, on a déjà lu ensemble le chapitre 11, verset 7. Qu'est-ce qu'il y avait au chapitre 11, verset 7? Alors qu'il est question des deux témoins, il était dit dans chapitre 11, verset 7, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et il est question aussi au chapitre 13 de cette bête qui va vaincre les saints. Donc on voit ici que cette bête a un pouvoir d'exécution et qui vient donc évidemment qui s'oppose à Dieu, c'est le dragon qui lui donne cette autorité-là et ça parle de persécution, d'arrogance, de blasphème et certains vont dire cette bête c'est comme la main. Du diable, hein, que comme la main de Satan, le pouvoir exécuteur, toi, ce que exécutoire, exécutif, comme vous voulez. Et donc cette bête-là, c'est vraiment l'action, hein, c'est elle qui agit. Pour le dragon, elle a reçu le pouvoir de la part du dragon. Cette bête, c'est celle qu'on appelle assez souvent ou qu'on associe souvent à ce que l'apôtre Paul et surtout l'apôtre Jean avaient appelé comme antéchrist ou antichrist. On a les deux. Anti. On a antéchrist qui, en grec, anté, comme antéméridien ou antédiluvien. Anté, ça veut dire avant. Antéchrist, c'est-à-dire avant Christ. Et la bête est celle donc qui vient avant Christ, avant la deuxième venue de Christ, hein, pour dire comme ça, avant l'apparition de Jésus, antéchrist. Mais aussi anti-Christ, qui veut dire, comme en français aujourd'hui, anti, c'est-à-dire contre Christ. Donc c'est à la fois, et on trouve les deux mots dans le Nouveau Testament, à la fois antéchrist et à la fois anti-Christ. Et c'est des thèmes qu'on retrouve assez souvent, par exemple dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Ça, c'est, on est chez Paul ici. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er, bon, il raconte un petit peu, verset 3, par exemple. 2 Thessaloniciens 2, 3, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie. Cet homme impie ici, c'est cet antéchrist, le fils de la perdition, l'adversaire, et on se souvient que Satan, ça veut dire adversaire, hein, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Donc, l'apôtre Paul fait référence ici à cet antichrist. Notez bien qu'il dit, et puis là évidemment ça va amener toutes sortes de débats, mais je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais juste vous ouvrir la parenthèse pour votre discussion, en disant, je reviens au verset 3, en disant, il faut qu'on ait vu paraître. Donc on va le voir paraître. Donc quand certains se disent, mais est-ce que l'enlèvement de l'Église, ça a lieu avant, après? En tout cas, ici, l'apôtre Paul dit clairement qu'on va le voir paraître. Peut-être pas voir la manifestation de sa fureur, mais en tout cas, le commencement de son règne, si je peux dire les choses ainsi. Dans Marc, Jésus avait déjà annoncé ce genre, avait déjà parlé de cette bête, si on peut dire les choses ainsi, cet antichrist, dans Marc, chapitre 13, verset 6. Il dit: car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Et on va voir qu'avec cette deuxième bête, c'est d'autant plus vrai. Notez bien ici que Jésus dit plusieurs, et que Antichrist, on va le trouver même au pluriel dans le Nouveau Testament. Nous, quand on lit l'Apocalypse, ici, il y a une bête. Mais on voit dans le Nouveau Testament et dans les écrits de Paul et surtout chez Jean qu'il peut, des fois, il peut y avoir les antichrists. Comprenez par là que tous ceux qui ont ce genre de pattern, comment dire, de fonctionnement, qui s'identifient un petit peu à ce qu'est l'antichrist, eh bien, participent et sont quelque part eux-mêmes l'antichrist. Un peu plus loin, dans le même chapitre, là, chez Marc, au verset 23, donc toujours 6, 23, il dit: soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Et donc, il fait verset 22, car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, ils feront des prodiges et des miracles. De faux Christ et de faux prophètes. Et on va voir avec la deuxième bête que la deuxième bête, c'est le faux prophète. Donc il y a le faux prophète et il y a les faux prophètes. De la même manière, il y a l'antichrist et il y a les antichrists qui fonctionnent de la même manière que l'antichrist. C'est comme si il y en a plusieurs qui vont être des antichrists, mais il y en a où le dernier, si on peut dire, va l'être par excellence. De la même manière qu'il peut y avoir plusieurs faux prophètes, mais il va y avoir le faux prophète par excellence. De la même manière qu'il peut y avoir plusieurs adversaires, mais il y a l'adversaire par excellence. Est-ce que vous me suivez? Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 18, on va voir comment Jean lui présente les choses. 1 Jean, chapitre 2, verset 18, il dit: petits enfants, c'est la dernière heure. Donc Jean dit c'est la dernière heure à son époque déjà, alors à plus forte raison pour nous. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc l'apôtre Jean dit, vous avez appris qu'un antéchrist doit venir et il y en a déjà plusieurs. Un peu plus loin, au verset 22, dans qui est menteur? sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antichrist, l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Et là, il va dire, tous ceux qui ne reconnaissent pas que Jésus est Seigneur sont contre Jésus et sont quelque part antichrist et sont de la même manière aussi antéchrist, c'est-à-dire annoncent de par leur opposition le retour de Jésus. Un peu plus loin dans la même épître, chapitre 4, verset 3, chapitre 4, verset 3, il est dit encore, et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, mais celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui est maintenant, et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc même à l'époque où Jean écrit sa première épître, il dit l'Antéchrist est déjà dans le monde. Comprenez la pensée de l'Antéchrist, il va parler au pluriel après aussi, c'est déjà là. Et donc, si ça l'est déjà à l'époque de Jean, ça l'est aussi à notre époque et aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'on ne soit pas surpris de voir dans le monde dans lequel nous vivons, eh bien, des antichrists qui, eh bien, vont aller faire le jeu de la bête, si je reprends le vocabulaire de l'Apocalypse ici, et aller donc dans ce sens d'adversaire et d'opposant. Et dans la deuxième épître de Jean au verset 7, deuxième épître de Jean au verset 7, il est dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel est le séducteur et l'antéchrist. Donc tous ceux qui s'opposent à la vérité, tous ceux qui s'opposent au message de la vérité, et là, qui ne reconnaissent pas que Jésus a été incarné, et évidemment, dans le contexte de Jean, on parle ici des gnostiques, hein, de la pensée gnostique, où on ne reconnaissait pas que Jésus est plus en esprit, eh bien, tous ceux donc qui s'opposent au message de la vérité sont des antéchrists. C'est ce que Jean dit ici. Alors, je reviens à notre chapitre 13. C'est quoi cette bête? Eh bien, cette bête ici, c'est celle qui vient s'opposer à Dieu. C'est cette bête qui vient persécuter, cette bête qui vient vaincre quelque part, hein, vient quand même amener une persécution, une souffrance au peuple de Dieu. Si on se souvient, j'ai fait référence tout à l'heure au chapitre 11, quand même qui va tuer les deux témoins. Mais on se souvient aussi dans le chapitre 11 que les deux témoins ressuscitent. Hein. Bon, il y a une bonne nouvelle quand même. Donc la victoire n'est pas définitive, n'est pas totale, n'est pas glorieuse, mais c'est une victoire apparente. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette victoire-là, eh bien, va cesser. Et parce que le peuple de Dieu a sa grande victoire par la suite. Il y a ce qui va donner un peu de pouvoir au dragon et à cette bête, c'est le fait que une de ses têtes était blessée, on la croyait morte, et finalement, elle va reprendre vie. Et ça va épater, ça va donner de l'admiration, et à cause de cela, la terre entière, eh bien, va suivre la bête. Alors, il y en a qui ont essayé de comprendre un petit peu c'est quoi. Alors, quand on regarde toutes ces têtes, ces couronnes, on voit avec d'autres chapitres, par exemple le chapitre 17, verset 9, qui va nous aider. 17, 9, attends, il ne faut pas que je me trompe là. Voilà, chapitre 17, verset 9. Bon, il est question ici, on aura l'occasion, on va y arriver en chapitre 17, hein, mais pour l'instant, juste pour prendre l'idée, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et ici, dans cet autre passage, hein, du chapitre 17, on ne va pas le détailler, mais on voit qu'on a une explication. Et que c'est une explication qui est complètement symbolique. Et on nous dit clairement que l'animal dont il est question ici au chapitre 17, c'est pas un vrai animal qui a sept têtes, mais que les sept têtes sont sept montagnes. Sept montagnes, sept montagnes. Attendez, attendez, attendez. Il y a un endroit où il y a sept montagnes. Ça vous dit quelque chose? Rome. Sept montagnes autour de Rome. Et pour les premiers chrétiens, c'est clair, c'est l'empereur Néron qui, de toute façon, met la panique dans tout le bassin méditerranéen et persécute les chrétiens. Et on voit ici que les sept têtes font référence donc à un pouvoir politique, et on va associer Rome. Et on va dire, oui, mais il y a une tête là qui va être blessée puis qui va revenir. Ben, c'est donc la blessure d'un empire ou la destruction d'un empire et la restauration d'un empire. Alors, certains vont dire, bon, ben, l'empire romain avec Néron a connu un certain déclin, mais avec Domitien, donc qui a été même le huitième empereur, puis certains vont dire, bon, ben, huit ici, ça correspond un petit peu à ce qui était dit auparavant, mais je ne vais pas rentrer dans les détails là-dedans, et de dire donc que cet empire romain qui avait connu comme une baisse, eh bien, revient à la vie et va amener une certaine admiration. Ça, ce serait plutôt une interprétation par rapport à l'histoire. D'autres vont parler de Caligula qui, à un moment donné, était malade et puis qui a guéri, et du coup, ça lui a donné plus de pouvoir. Et Caligula qui a voulu même installer sa propre statue dans le temple de Jérusalem au 1er siècle. On comprend que ça a pu poser toutes sortes de problèmes et que ça pouvait être associé assez facilement à un antéchrist. Hein. Alors, aujourd'hui, c'est quoi cette affaire? Ben, si on reste avec le symbolisme du chapitre 17, où on voit que les têtes peuvent représenter plus que des têtes, puisque là, c'est des montagnes, et ces montagnes, évidemment, ces collines font référence, servent à identifier une ville, à savoir Rome, ici en l'occurrence, eh bien, de la même manière, pour nous, on pourrait dire, bon, c'est pas forcément Rome dans la Rome historique, mais en tout cas, ça nous parle d'empire, ça nous parle de puissance économique, de puissance politique. Et donc, dans l'interprétation qu'on va faire de cette bête qui monte, eh bien, de la mer, il va falloir rester assez prudent, mais de voir que s'il y a une tête qui est blessée, puis qui reprend vie, puis que ça va amener de l'admiration, eh bien, ça va être comme une restauration politique qui va amener en disant, waouh, on pensait que c'était fini avec tel ou tel mouvement ou tel pouvoir politique, mais ça amène l'admiration lorsqu'il revient. Et tous les habitants de la terre adorent la bête. Hein. Ça rappelle un petit peu 2 Thessaloniciens 2,4. On l'a lu tout à l'heure. Hein. Tous les habitants de la terre adorent la bête et il y a comme un effet de fascination. Et certains vont dire, mais ça nous rappelle Napoléon, où il y a eu un effet de fascination. Napoléon, hein, bon, d'autres vont dire, non, non, ça rappelle Mussolini. D'autres vont dire, mais non, ça rappelle Hitler. D'autres vont dire, ça rappelle Mao, ça rappelle Staline. Et tout le monde a voulu identifier la bête. Et c'est là où vous vous souvenez, je pense que c'est la dernière fois que je disais ça, ou avant, puis je vais le redire ici, dans le sens où, parmi les noms que j'ai donnés, j'allais dire tout est vrai. Dans le sens où il n'y a pas un antichrist, mais il y a des antichrists. Et dans ce sens-là, Hitler a joué la fonction d'un antichrist. Et il l'était quelque part. Et Mao de la même manière, ou Staline de la même manière, ou Mussolini de la même manière, ou d'autres encore de la même manière. Et c'est pas, on peut pas dire oui, mais c'est lui et c'est pas un autre. Ils l'ont tous été à leur mesure, mais ça ne veut pas dire que c'était l'antéchrist ultime, final ou par excellence dont il est question ici dans l'Apocalypse, mais les traits, les caractéristiques de l'antéchrist se retrouvaient dans tel et tel personnage odieux, abominable de l'histoire. À l'époque de Jean, au moment où il écrit l'Apocalypse, pour eux c'est clair, c'est Domitien, l'empereur ici, qui même lui-même au 1er siècle se faisait appeler Seigneur et Dieu. Pour eux, c'était clair qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Alors ça, c'est la première bête qui monte de la mer. Ensuite, il y a une bête qui monte de la terre, verset 11. Je vis monter, il faut que j'accélère un peu, sinon on n'aura pas le temps de finir le chapitre. Je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Hé, ce n'est pas la première fois qu'on parle d'un agneau. Mais là, c'est une bête qui ressemble à un agneau. Ça fait moins peur. Quand on voit une bête avec des têtes, des cornes, 10 cornes et tout, on dit, waouh, c'est. Et puis des pattes d'ours, et puis semblable à un léopard, une gueule comme la gueule d'un lion, une bête comme un agneau. C'est mignon, un agneau. Non? Mais c'est une bête pareille. Et c'est peut-être d'autant plus dangereux d'avoir une bête qu'on a envie de caresser et qui vous mange le bras. Parce que ça a peut-être la tête d'un agneau, mais ça reste une bête. C'est pas un agneau. Et vous comprenez l'histoire d'imitation dont je parlais tout à l'heure, où au début de l'Apocalypse, il est clairement mentionné, on fait référence à l'agneau de Dieu, et là la bête, elle ressemble à un agneau. Et on comprend les avertissements que Jésus donne, que on va l'imiter, on va dire je suis, hein, ils vont se faire passer pour Jésus. Et là, cette bête veut se faire passer pour un agneau. Mais Jean dit, c'est pas un agneau qui monte de la terre, c'est une bête. Alors cette bête, elle monte et elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et les habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges. Et dans ce sens-là, on dit, waouh, il y a des grands prodiges. C'est pas parce qu'il y a des grands prodiges et qu'il y a quelque chose qui ressemble à l'agneau que Jésus est impliqué dans l'affaire. Et il nous faut avoir ce discernement à nous aujourd'hui. C'est pas parce qu'il y a de grands prodiges et parce qu'on fait référence à l'agneau que Jésus est dans l'affaire. Il y a une bête ici qui amène à adorer l'autre bête. Et les grands prodiges ne sont pas le sceau de la vérité. Le sceau de la vérité, c'est l'obéissance à la parole. C'est pas le miracle. Souvenez-vous qu'il y en a qui vont venir et Jésus va leur dire, je vous connais pas. Il va dire, mais on a fait des prodiges, on a fait des miracles, on a chassé des démons, on a guéri en ton nom. Jésus dit, je vous ai jamais connu. Le prodige ne fait pas l'authenticité. Et c'est pas parce qu'il y aurait des grands prodiges et des grands miracles quelque part que c'est vrai, que c'est du vrai. C'est pas parce que ça ressemble à un agneau et qu'il y a beaucoup de prodiges que c'est vrai. La bête ici, elle imite, elle copie, elle triche, elle ment, elle parle comme un dragon. Alors, il ne faut pas qu'on soit naïf par les temps qui courent à se laisser avoir par cette bête qui va être appelée le faux prophète. Et on va voir que elle est vraiment identifiée comme étant le faux prophète. On continue. Pourquoi est-ce qu'on dit que cette bête est appelée le faux prophète, attendez, j'ai peut-être une référence pour vous, c'est parce que plus loin, tout simplement, je crois que j'ai sauté un petit peu mon papier. Tada. La deuxième, voilà, parce que chapitre 16, verset 13, regardez, on va juste un petit peu plus loin. Chapitre 16, verset 13, il est dit. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. Et on a les trois entités des chapitres 12 et 13 où on a le dragon, la bête qui sort de la mer, la bête qui sort de la terre. Hein, c'est la trinité satanique, si on veut dire. Et ici, on a la même chose où il est dit le dragon, la bête, comprenez, qui sort de la mer et le faux prophète. Donc le faux prophète ici est synonyme de la bête qui sort de la terre. Et peut-être pour que vous soyez plus convaincus, chapitre 19, verset 20, un peu plus loin, la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges. Et vous vous souvenez, quand on lit les caractéristiques de cette bête qui sort de la terre, elle fait des prodiges. Et ici, eh bien, c'est le faux prophète est celui qui fait les prodiges. Donc, à 100%, on peut identifier cette. Bon, si vous n'êtes pas sûr que vous avez le droit, mais moi, je pense qu'il y a suffisamment d'indices et de preuves pour déclarer que cette bête qui sort de la terre, c'est le faux prophète. Alors, ce faux prophète, c'est qui? Ce faux prophète, c'est quoi? Ce faux prophète, déjà le mot prophète, habituellement, quand on parle de prophète, c'est plus pour Dieu. Le prophète, c'est celui qui parle à la place d'eux. Ici, c'est le prophète pour le dragon, hein, et le dragon qui est Satan, le serpent ancien. Ce faux prophète, c'est un personnage religieux. On est dans le monde religieux ici, hein, qui ressemble à un agneau, hein, qui imite, et on est vraiment dans le jeu de la séduction, de l'imitation, de la parodie. On fait comme si c'était chrétien, mais ça l'est pas. Et donc, on est dans un mode d'imitation, de copie, de fausse religion, de faux prophètes. Et on est vraiment dans ce mode-là. Pour les premiers chrétiens, eh bien, ou même pour les réformateurs, par exemple. Pour les réformateurs, donc Luther, Calvin et tout, le faux prophète, c'était l'Église catholique. Comme ça, au moins, on avait identifié la bête, hein, qui monte de la terre. Parce que Pie IX, par exemple, avait dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ça vous dit quelque chose, ça? Non, non, c'est Pie IX qui l'a dit. Enfin, il l'a dit pour lui, à son compte. Alors, du coup, les réformateurs ont dit non, une abomination, ça, c'est le langage du faux prophète. Et on a identifié le faux prophète à l'Église catholique. Aujourd'hui, peut-être que les théologiens vont moins aller dans ce sens-là ou dire, ben, c'est peut-être l'islam. Ou d'autres vont dire, c'est telle ou telle religion. Ou c'est peut-être pas aussi éloigné que notre propre culture. Comprenez qu'à l'intérieur même du monde chrétien, il peut y avoir du faux. C'est justement le côté sournois de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Je veux dire, le faux imite le vrai. Hein? Et donc, ça peut ressembler à du vrai, mais ça ne l'est pas. Et donc, ce faux prophète-là a donc un agenda qui est celui du dragon, du serpent, de Satan, mais qui a une apparence d'agneau et qui fait des prodiges. Alors à nous d'être vigilants et on comprend pourquoi il était dit que celui qui a des oreilles entend. Bon, on a deux grosses choses importantes à dire là et je ne veux pas vous laisser sur votre faim, alors on va y aller. On était rendu au verset 14, et elle séduisait les habitants de la terre par les signes et prodiges, donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Certains vont dire animer l'image de la bête, ça ressemble à la télévision ou l'Internet. Ou... Comprenez qu'au temps de Jean, il n'y avait pas d'image animée, hein. Aujourd'hui, ça paraît tellement banal, une image animée, mais comprenez qu'avec les médias, c'est tellement facile maintenant. Comment dire? Vous prenez il y a 100 ans, ou 150, ou même 50 ans, prenez un rigolo qui dit n'importe quoi, il n'y a que son village qui l'entend. Aujourd'hui, vous pouvez prendre un rigolo qui dit n'importe quoi et qui se met sur Internet, et c'est la planète entière qui va l'entendre. Et comprenez qu'avec le progrès technologique, ben, la bête, là, en l'occurrence, ça facilite peut-être la propagation de l'évangile, mais la propagation du faux évangile aussi et du faux prophète. Et il lui fut donné d'un, on l'a lu, verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front. Ah, la marque de la bête, on y arrive. Et que personne ne puisse, donc elle fit que chacun ait une marque, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence, est-ce qu'il y en a qui ont de l'intelligence ici? Alors on va demander que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Et quelque part, je dis, mais il nous demande de calculer, puis il nous donne la réponse. Il dit, calcule le nombre de la bête, son nombre c'est 666. Ben, pourquoi tu me demandes de calculer si tu me donnes le résultat? Enfin bref. Non? Vous vous êtes jamais posé la question? Non, 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 il est dit, et son nombre, donc, non, non, c'est un nombre d'hommes. Le nombre de la bête, synonyme un nombre d'hommes, le nombre de la bête égale un nombre d'hommes, égale 666. C'est ce que dit la phrase. Alors, c'est ça. Oh, ben, ça, c'est juste une histoire de traduction. Mais on revient sur cette marque. La marque de la bête. Qu'est-ce que c'est ça? La marque de la bête, qu'est-ce que c'est ça? Il me semble avoir entendu le mot puce. Bon, déjà, comprenez qu'au temps de l'apôtre Jean, les puces n'existaient pas. Enfin, il y en avait, mais ce n'était pas les mêmes. La marque. Il faudrait déjà revenir dans le contexte historique. C'est quoi la marque? La marque, qui avait une marque? Les animaux avaient une marque. On marquait au fer rouge les animaux pour savoir à qui ils appartenaient. Hein, les cow-boys, ici encore, dans l'Ouest, le font. Bon. Mais la marque, c'était aussi la marque de l'esclave. L'esclave était marqué. Et avec cette marque, on savait que c'était un esclave. Et la marque, par définition, c'est un symbole d'appartenance. Et dans le reste de l'Apocalypse, on voit clairement que quand il est question de la marque de la bête, ça fait référence donc à une appartenance. C'est pas une marque qui veut rien dire. C'est pas une marque qui a un but économique ou informatique ou technique. C'est une marque qui atteste une appartenance, que ceux qui ont cette marque appartiennent à la bête. Vous me suivez? Donc cette marque, c'est la marque de la bête, et dans le contexte ici, c'est une marque qui manifeste une appartenance. Maintenant, dans l'Apocalypse, vous savez, ça fait, c'est pas la première fois qu'on lit l'Apocalypse, hein, ça fait déjà quelques dimanches soirs qu'on est avec l'Apocalypse. Ça arrive assez souvent qu'il y ait quelqu'un qui sort avec une théorie, une hypothèse. Et il y en a une qui est sortie un jour en disant la marque de la bête, c'est une puce électronique qui sera mise. Alors attendez, il faut m'expliquer. Parce qu'il est dit que. Ils reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front. Sur leur main droite, ah oui, ou sur leur front. Autant pour moi. Sur leur main droite ou sur leur front. Non, marqué droite, il n'y a pas marqué gauche là. Bon. Alors maintenant, certains vont dire, c'est une puce qui va être mise sur la main droite ou sur le front. Sur la main droite ou sur le front. Une puce électronique. Pendant la guerre, pendant l'Holocauste, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs étaient tatoués et recevaient une marque, la marque d'Hitler quelque part, comme quoi ils appartenaient aux nazis et qu'ils étaient marqués, tatoués, mais il n'y avait pas de puce. Est-ce que c'était la marque de la bête? En tout cas, il y avait la marque d'une bête, d'un antichrist. Mais ici, la marque de la bête faisait en sorte que personne ne puisse acheter ni vendre. Comprenez qu'au temps de l'apôtre Jean, quand un esclave était marqué de la marque de l'esclavage, ils ne pouvaient pas aller au marché et acheter un autre esclave ou acheter quoi que ce soit. C'était un esclave. C'était impossible qu'un esclave achète et fasse du commerce. On ne peut pas demander à un esclave d'acheter une maison. Qui vendrait une maison à un esclave? Avec quoi il va payer? Vous me suivez? Donc la marque l'interdisait d'acheter et à plus forte raison de vendre. Heureusement que les esclaves ne peuvent pas vendre les maisons de leur maître. Hein? Donc si on voit que c'est un esclave, on dit, hey, ça t'appartient pas, tu es juste esclave. Imaginez que les serviteurs d'une maison vendent la maison. Non, non, t'es pas propriétaire, tu es juste esclave ici. Et donc, avec cette marque, personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque. Et ça fonctionne très bien, même s'il n'y a pas de puce. Même si c'est juste un tatouage, même si c'est juste une marque au fer rouge, la marque faisait en sorte qu'on ne puisse pas acheter et qu'on ne puisse pas vendre. Maintenant, aujourd'hui, certains ont émis l'hypothèse que ce soit une puce, et c'est devenu la grosse peur de la puce. Personnellement, ça me fait sourire. Mais je veux être respectueux en disant, si vous voulez croire que c'est une puce, peut-être. Mais attention aux conséquences de ce genre de théologie. Parce que quelqu'un dira, moi j'ai pas de puce dans ma main droite et j'ai pas de puce sur mon front, donc je risque rien, j'ai pas la marque de la bête. Et si tu te trompais, et que la marque de la bête soit autre chose. Franchement, dans tous les livres que j'ai pu considérer par rapport à ces passages-là, aucun théologien sérieux ne parle de puce. Mais par contre, ils vont rester dans une logique biblique, parce que la logique biblique, ce n'est pas la puce, hein, vous comprenez qu'on ne parle pas vraiment de puce électronique dans la Bible. Mais de dire que le front fait référence aux pensées et la main fait référence à l'action. La main, c'est agir et le front, c'est penser. Et quelque part, cette marque, eh bien, est une marque soit dans nos pensées ou dans nos actions. Et que si on n'a pas cette marque, si on ne pense pas selon le mode de la bête, ou si on n'agit pas selon le mode de la bête, eh bien, on peut être exclu d'un système économique. Est-ce que ça n'arrive pas dans la pensée moderne? Est-ce que ce n'est pas le genre de choses qui pourrait arriver que si vous n'êtes pas dans un certain mode de pensée, vous êtes exclu du système? Si vous êtes en Corée du Nord et que vous ne pensez pas comme le dictateur, je ne pense pas que vous puissiez acheter ou vendre quoi que ce soit et faire du commerce. Hein. Vous me suivez? Si vous êtes en Somalie et que vous ne pensez pas comme la charia, si vous êtes une femme non voilée, vous n'allez pas acheter quoi que ce soit au marché, hein, et plutôt recevoir des pierres. Vous me suivez? Et tout cristallisé sur une puce électronique qui, entre nous soit dit, l'idée a été lancée il y a l'histoire de la puce. Ça fait combien de temps qu'on entend parler de la puce électronique? 20 ans? 30 ans? 40 ans? Bon. Bon. Si on parle d'il y a 30 ans, si on parle d'il y a 30 ans pour la puce électronique, il y a 30 ans, on disait aussi que l'invasion allait arriver des communistes. Et que Gog et Magog, c'était les communistes. Maintenant, on a changé. C'est plus les communistes. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est les musulmans. Je ne sais pas. Il y a des positions qui ont été lancées à cette période-là qui ont changé. Mais au niveau de la puce, ça ne change pas. Par contre, au niveau de la technologie, on va dire oui, mais maintenant, ça devient possible. Et il y en a qui ont des puces. Ça arrive maintenant. Par exemple, des personnes très riches vont mettre une puce de style GPS dans leur enfant pour éviter les enlèvements et que si on enlève un enfant, on sait où il est. ou des agents secrets, peut-être vont avoir une puce. Je crois avoir vu un James Bond comme ça où il avait une puce dedans. Mais bon. Mais en tout cas, techniquement, c'est possible. Certains vont dire, mais il y en a d'autres qui ont fait ce genre de choses où c'est des épiceries où, en fait, quand on met la main pour prendre le pack de lait, on a comme un code-barre ou une puce quelque part, à la rigueur, qui identifie que c'est vous, ça le met sur votre compte, il identifie que vous prenez votre pinte de lait et c'est facturé directement sur votre compte. Franchement, franchement, je vais vous provoquer volontairement. Je vous préviens. Franchement, si Super C demain disait, on peut mettre une puce au bout de votre doigt et comme ça, vous pouvez aller au supermarché, acheter et puis ça va directement sur votre compte bancaire. Franchement, ça ne me gênerait pas d'en avoir une. Parce que c'est pas parce que tu as une puce, c'est pas parce que tu as une puce au bout de ton doigt que tu as la marque de la bête. Des puces, vous en avez sur votre carte Interac. Est-ce que c'est la marque de la bête? Des puces, vous en avez partout dans votre voiture. Des puces, vous en avez dans vos téléphones. Avec mon téléphone, avec l'iPhone 6, mais ça marche pas au Canada, juste aux États-Unis. Avec l'iPhone 6, vous pouvez acheter juste en montrant le téléphone. Et le téléphone fait. Et avec certains comptes, certaines banques, je ne parle pas de code, je parle à l'intérieur, il y a un signal et ça paye. Est-ce que c'est la marque de la bête? Vous allez dire, oui, mais là, c'est marqué. Oui, mais comprenez que la marque de la bête, c'est qui? C'est l'antichrist. C'est aller contre Christ. Si quand vous achetez des carottes au marché, c'est pas blasphématoire, hein? Même si vous payez avec une puce dans votre carte de crédit. À un moment donné, certains vont dire que 666, c'est la carte Visa. Parce qu'ils ont vu que, et c'est vrai, c'était surtout vrai en Europe, parce que le grand serveur des cartes de crédit était à Bruxelles, en Belgique, et le numéro, parce que c'est des longs numéros, ça commençait par 666. Donc, les cartes de crédit, c'est la marque de la bête. Et oui, on achète avec une carte de crédit, on vend avec une carte de crédit, ou PayPal peut-être, si hein, vous avez un compte 666. Vous comprenez que la marque de la bête, ce n'est pas juste un numéro, ce n'est pas juste une puce, ce n'est pas juste une carte, ce n'est pas juste un papier, c'est avant tout un adversaire, une mentalité, un état d'être. Et que ce n'est pas. Parce que vous avez tous une marque. Ça s'appelle un numéro d'assurance sociale. Vous ne pouvez pas avoir de compte bancaire sans numéro d'assurance sociale. Vous ne pouvez pas travailler sans numéro d'assurance sociale. Bref, vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas vendre sans la marque de la bête assurance sociale. Et vous comprenez que ça ne fait pas de vous quelqu'un qui n'est pas chrétien et qui fait partie du monde de l'antéchrist, parce que vous avez un numéro d'assurance sociale. On est dans une époque, sinon il faut devenir Amish, hein. Et puis on refuse la modernité. Mais on vit avec le monde dans lequel nous sommes. Et oui, il y a des opérations, on ne peut pas vendre, on ne peut pas acheter si on n'a pas certains numéros. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est la marque de la bête dont il est question ici. Et des fois, on est tellement focalisé sur la puce qu'on est comme dit Jésus, vous éliminez le moucheron, vous éliminez les puces et vous avalez le chameau. Et vous êtes tellement focalisé sur des affaires et sur un point que tout le reste, vous le laissez passer. Et des fois, on peut attendre la puce et la puce et la puce en disant jamais j'aurai une puce dans la main, jamais j'aurai une puce dans la main. Et pendant ce temps, vous acceptez la pensée de l'antéchrist dans d'autres aspects de votre vie. Et il faut rester vigilant. L'antéchrist, ce n'est pas juste une puce électronique. L'antéchrist, c'est avant tout une mentalité, une pensée, une opposition. Et ne pas se laisser séduire par les prodiges d'un faux prophète qui ressemble à un agneau, C'est ça qui est plus important ici. C'est de dire que c'est pas parce qu'il ressemble à un agneau, lui, et qu'il fait des grands prodiges, que je vais me laisser séduire. Puce ou pas. Vous me suivez? Bon, je ne sais pas si j'ai été assez clair sous la puce. Et il faut conclure avec le 666. Bon, allez, on va aller vite. On va vous régler l'histoire du 666. Pour certains, le 666, c'est l'Église catholique. Il suffit de prendre ce qu'il y a marqué sur la tiare du pape. Vous savez, sur la tiare, il y a marqué vicaire de Dieu. Et vous savez que les lettres en latin, le V, c'est combien V? 5, le C, 100, le I, c'est 1. Ça n'existe pas? C'est 1. Enfin bref, vous pouvez trouver comme ça toutes les lettres et ça veut dire 666. Mais quelqu'un d'autre? Ah non, 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 attendez. Martin Luthera, Martin Luther, égale 666. Hitler, 666. Ah ben, et ben, bon. A égale 100. A, la lettre A égale 100. La lettre B égale 102. La lettre C égale 103. Donc H 107, I 108, T 119, L 111, E 104, R 117. Je fais la somme de tout ça. 666. Hitler, 666. Alors, avec ce système-là, il y en a qui vont aller le chercher en lettres hébreux, d'autres qui vont passer en latin, d'autres qui vont passer en lettres grecques. On a prouvé que 666, c'était Mahomet. Oula, il faut que je fasse attention. J'espère qu'il n'y a pas d'intelligence qui nous écoute. Il y en a d'autres qui ont montré que 666, c'était Roosevelt. 666, Mussolini. 666, Kissinger. 666, Sadat. 666, Reagan. 666, Gorbatchev. D'autres vont dire 666, c'était Néron, César, c'est-à-dire le César Néron. D'autres vont dire que c'était Domitianus César, donc Domitien, 666. D'autres vont dire non, 666, c'est l'Internet. Les codes Internet, là, www. W, la lettre WAV. En hébreu, c'est 6. Ou alors encore mieux, en grec. On va dire, non, on va pas aller en... W. La lettre sigma en grec. Vous savez, vous avez fait sigma, c'est les sommes là. Hein? Ça fait comme ça un sigma. Mais le sigma qui fait comme ça, vous dites, mais ça fait pas W. Oui, mais sigma, tu le retournes comme ça fait W. Et sigma en grec, c'est 6. Et en plus, sigma, c'est serpent. Non, non, mais on en a des théories. D'autres vont dire non, non. 666, on prend les trois lettres grecques on va prendre le qui, ça vaut 600. Le xi, ça vaut 60. Et le sigma, ça vaut 6 en grec. Donc ça vous fait trois lettres. On va vous les résumer comme ça. X, S, X, Z, S. D'accord? X 600, le Z ou le Xi 60 et le S 6, 666. Mais ça veut dire quoi? Regardez. X et S, Christus, c'est Jésus. Ça commence par la même lettre, ça finit par la même lettre. Jésus. Donc on a X et S, Jésus. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a? Au milieu, on a le Xi, le S, le Z, c'est le serpent qui est au milieu du Christ. C'est ça le 666. Ah non, mais on en a des théories, hein. D'autres vont dire non, mais c'est beaucoup plus simple. 7, 7, 7, c'est le chiffre parfait. 7 moins 1, 6, chiffre de l'homme. Chiffre de l'homme, 7, c'est le chiffre de Dieu, 6, c'est le chiffre de l'homme. 666, c'est le chiffre de l'homme par excellence. Et 8, 8, 8, c'est Jésus. Parce que si vous prenez Yesus, ça fait 8, 8, 8. Alors, je répète la phrase. Je répète la phrase. Que celui qui a de l'intelligence calcule. Moi, je pars tout de suite en disant, j'ai pas d'intelligence. Et j'ai pas assez d'intelligence. Mais je reviens sur un point en disant que ma conception, ma vision, ce que je crois, c'est que l'Apocalypse est un livre qui est volontairement ouvert à plusieurs sens. Je veux dire par là que quand, à l'époque des premiers lecteurs de Jean, on a vu dans le chiffre de la bête ou qu'on a vu dans ce chiffre-là, eh bien, Néron ou Domitien, ils avaient raison. Il y avait vraiment la pensée de l'Antichrist qui était dans ces empereurs qui ont persécuté, tué les chrétiens d'une manière atroce. Quand, eh bien, il y en a qui ont souffert par l'Église catholique, qui, lors des guerres de religion, l'Inquisition, ou plutôt les guerres, les dragonnades, et qu'on a persécuté les protestants, hein, mes ancêtres, bon, bref, les huguenots, ainsi de suite. Ben, et qu'on a vu là, oui, il y avait cette mentalité qui était là. Quand on voit chez Hitler, chez Pol Pot, chez tous ces dictateurs, eh bien, une haine, on dit, mais c'est la pensée de l'Antichrist qui est là. Et on a raison de les voir ici. Et qu'on arrive à trouver un 666 ou pas, quelque part, il y a la pensée de l'Antichrist ici. Maintenant, si l'Apocalypse avait voulu nous donner quelque chose de très clair pour qu'on identifie d'une manière précise, ben, il nous aurait donné le nom, hein, et la date. Mais on n'a pas le nom, on n'a pas la date. Pourquoi? Pour qu'on soit attentif, pour qu'on soit vigilant. C'est un petit peu comme si on dit, ça va arriver, mais je ne te dis pas quand. C'est quoi notre réaction? C'est, ouh, faut que je fasse attention. Si on dit, ça va arriver, on ne sait pas par où, ah, je vais regarder, je vais être vigilant. Et c'est un peu ça l'Apocalypse. Ça nous prévient qu'il y a des choses difficiles, mais en disant, sois vigilant, ne te laisse pas avoir par le faux prophète qui ressemble à un agneau. Sois vigilant. Sois intelligent là, réfléchis, qu'est-ce qui se passe? Et je conclue avec ça. Souvenir que le chapitre 12 en particulier et le chapitre 13 sont là pour nous montrer une bonne nouvelle. Il y a peut-être le dragon, il y a peut-être la bête qui monte de la terre, de la mer, il y a peut-être ce faux prophète, mais Michel et ses anges remportent une victoire. Et ce n'est que pour un temps. Il sait que ses jours sont comptés. Et nous, on est du côté du plus fort. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et il faut que j'arrête parce que sinon, on ne s'arrête plus. On va conclure avec un mot de prière. Nous bénissons, Seigneur, pour ta parole et nous avons besoin d'intelligence, mais nous avons besoin aussi d'humilité pour pas dire de bêtises plus grosses que nous et pour pas faire dire à ta parole ce qu'elle ne dit pas. Donne-nous de la sagesse, donne-nous de l'humilité pour reconnaître notre incompétence à comprendre certaines choses. Et donne-nous du discernement aussi pour ne pas nous laisser avoir par la pensée du monde, par la pensée du diable, par la pensée de l'Antéchrist et nous laisser séduire par un faux prophète qui veut nous faire croire dans quelque chose qui est faux. Donne-nous, Seigneur, de discerner et de rester attaché à la vérité et que ce soit cette vérité qui soit notre partage, notre bien et notre trésor. Merci, Seigneur, pour ta parole et prends-nous à grandir encore dans ce texte. Amen. Et la semaine prochaine, et comme on dit dans l'Apocalypse, il y a toujours, on a parlé de choses qui font peur, et après, une bouffée d'oxygène, puisqu'on est avec l'agneau, il est racheté. Hein. Chapitre 14, l'agneau, il est racheté, et on fera chapitre 14 et chapitre 15 la semaine prochaine.